La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous. La vie de Claude Simon est hantée par la perte et par l'absurde. La perte de ses parents en bas âge pour le père, à 12 ans pour la mère. L'absurde de la drôle de guerre où, cavalier sur la route des Flandres, il n'a rien à opposer, lui et son bataillon, aux tanks et aux avions qui, eux, font la guerre avec la technologie du XXe siècle. Cette vie, Mireille Kahl-Gruber l'a écrite dans une biographie parue au Seuil en 2011 et l'a racontée à ce micro lundi dernier au cours d'une émission à retrouver en podcast. Claude Simon, qui est partout dans ses livres, et même si cela ne saute pas aux yeux à la première lecture, tout y ressemble à son auteur. Il a simplement raconté au plus près son expérience du monde, ce qui passait par une nouvelle manière d'écrire. C'est ce que nous a expliqué hier Alastair Duncan, éditeur de l'écrivain dans la Pléiade. Enfin, demain, nous parlerons des dernières œuvres de Claude Simon, du retour de la narration et des personnages dans ses livres. Guy Scarpetta nous expliquera ce cheminement à travers en particulier l'exemple du roman L'Acacia. Et aujourd'hui, aujourd'hui, pour continuer à creuser l'œuvre de Claude Simon et en particulier son roman La Route des Flandres, nous sommes avec le professeur de littérature française moderne à l'université de Nanterre, Dominique Viard, auteur avec Bruno Versier du manuel La littérature française au présent, publié aux éditions Bordas en 2005, et sur Claude Simon de l'essai intitulé Une mémoire inquiète, La Route des Flandres de Claude Simon, réédité en 2010 aux presses universitaires du Septentrion. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Je passe pour un auteur difficile, les critiques s'en prennent un plaisir à dire « Ah ben c'est très bien, moi j'ai compris, mais un pauvre lecteur imbécile, il ne peut pas comprendre, c'est très difficile. » En réalité, moi je pense que ce n'est pas difficile du tout, à condition qu'on les prenne pour ce qu'ils sont. C'est ce que je répondais à un grand collectionneur de peintures modernes qui me dit un jour « Je vous lis ». Mais je trouve que c'est très difficile. Je lui dis, écoutez, si en me lisant, vous essayez de reconstituer un roman balzacien ou stendhalien ou Nadeau de Zola, je ne suis pas difficile à lire, je suis impossible à lire. Mais enfin, je vois sur vos murs, il y a de la peinture moderne. Est-ce que quand vous regardez un Klee, quand vous regardez un Léger, un Picasso, est-ce que vous essayez de reconstituer un Chardin ou un Delacroix? Non, vous les prenez pour ce qu'ils sont.
Claude Simon, interrogé en 1973 par Viviane Forrester. Bonjour Dominique Viard.
Bonjour.
Une œuvre difficile, celle de Claude Simon?
Une œuvre singulière, en tout cas. Difficile, c'est, je crois, lui faire tort que de dire ça. C'est une œuvre dans laquelle il faut se laisser prendre, il faut s'immerger dedans. C'est une œuvre qui parle beaucoup plus au sens, peut-être, qu'à l'intelligence, et qui ne parle à l'intelligence qu'à partir des sens, des sensations.
À tous les sens ou à seulement le sens visuel?
Non, tous les sens. Il y a une mélodie de la phrase, il n'y a pas seulement des images. Et il y a une attention aussi au sens tactile, aux odeurs. Enfin, c'est un monde sensoriel. D'ailleurs, les tout premiers lecteurs de Claude Simon avaient beaucoup insisté sur la dimension phénoménologique de l'œuvre. Et je crois que c'est une bonne manière de le lire et de s'immerger dedans. Et puis peu à peu, dans un effet de décantation peut-être, des effets de sens apparaissent.
C'est une œuvre qui s'impose tout de même, c'est en tout cas l'impression que vous avez, peu à peu, à la fois dans l'université, dans le grand public aussi.
Alors elle s'impose à l'université de manière très évidente, effectivement, elle est très très lue, très très étudiée, elle est même mise dans le programme d'un certain nombre de concours.
Elle a été à l'agrégation aussi.
Elle a été à l'agrégation, elle a été au concours aussi de l'école normale supérieure. C'est également une œuvre qui fait son effet dans la production littéraire. Beaucoup de jeunes auteurs sont de grands lecteurs de Claude Simon. Et ça se voit dans leur manière d'aborder les textes et le monde qu'ils décrivent. C'est le cas de Mélise Kerangal, par exemple, qui lui a consacré des journées. C'est le cas d'ailleurs d'un certain nombre de ces écrivains qu'on rassemble dans le groupe des incultes. Je pense à Mathias Sénard, dont la phrase est parfois très très simonienne. Ou même à Mathieu Larnaudy, qui a publié un livre sur la crise économique de 2008, qui s'appelle « Les effondrés », et qui évoque ce milieu de banquiers dans des termes et des structures de pensée, de discours qui sont éminemment simoniennes.
Alors Maëlys de Kerangal qui peut s'intéresser aussi à l'univers de la peinture, d'ailleurs, on l'a vu dans son dernier livre. Est-ce que la peinture moderne rend aussi, dans sa référence à Claude Simon, le fait qu'il l'a beaucoup regardé de peintre et de peintre moderne, rend aussi plus difficile, je reste sur ce thème, la lecture de son œuvre?
Alors, il y a plusieurs réponses à faire à votre question. D'abord, Claude Simon, vous l'évoquiez, je crois, lundi, a d'abord eu une carrière de peintre ou une tentative de carrière de peintre à laquelle il a renoncé et dont il ne pensait lui-même d'ailleurs pas grand bien. Mais c'est un grand amateur de peinture. Il est fasciné par Cézanne, il le dit souvent, il revendique les modèles des peintres. Il a une correspondance avec Dubuffet et dans l'attention qu'il porte à certains détails, je pense à une dans la route des Flandres, puisque vous évoquiez ce titre tout à l'heure, une porte de poulailler avec des traces de ciment, on est dans une sorte de vision très très proche qui n'est pas sans évoquer certains tableaux de Dubuffet. Dans Triptyque, l'œuvre est construite à partir de tableaux de Bacon, de Dubuffet et de Delvaux qui suscitent les images qui viennent dans le texte. Donc il y a cette dimension-là qui est effectivement très très présente.
Ouais. Et le cinéma, parce que dans Le Vent, par exemple, il y a aussi des effets de champ, de contre-champ, de gros plans. On a l'impression parfois de regarder un film, d'ailleurs un film américain adapté de Faulkner par exemple.
Alors Claude Simon est lui-même très fasciné par le cinéma muet, par le cinéma comique, notamment Charlie Chaplin et le cinéma comique américain. Il y a des très beaux livres qui ont été écrits sur cette question par Bérénice Bonhomme, qui avait fait une thèse sur la tentation cinématographique chez Claude Simon. Il a lui-même d'ailleurs fourni, il a voulu plusieurs fois mettre en film son livre La Route des Flandres.
Qu'est-ce qu'il en a empêché? Ça doit être très difficile, cela dit.
Il n'a pas eu les avances sur recettes qui étaient nécessaires pour financer le film. Il avait fait le découpage, et le découpage, il le donne d'ailleurs à la fin du Jardin des Plantes.
La poésie, autre art qui vient s'immiscer comme ça dans la prose de Claude Simon, est-ce qu'on peut tout simplement dire que Claude Simon, c'est de la poésie en prose?
Non, je ne crois pas que ce soit possible de le résumer ainsi, parce que la phrase de Simon est une phrase très narrative, très discursive. Elle ne se contente pas de ces espèces d'aperçus immédiats ou d'épiphanies que la poésie souvent propose. En revanche, s'il est une dimension poétique chez lui, c'est l'attention aux mots. On oppose souvent la poésie qui serait attentive aux mots à la narration qui serait attentive à la phrase. La phrase de Simon est attentive aux mots, elle procède de mots, elle se relance dans le jeu des mots, dans leurs assonances, dans les effets de son et de rythme qu'ils peuvent produire. Dans ce cas-là, oui, il y a une dimension poétique chez Simon. Et puis il y a une dimension poétique aussi dans cet aspect phénoménologique que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'attention à des petits détails du monde, à des feuilles qui scintillent, par exemple, à des choses qu'on méconnaît chez Simon, mais si on lit la phrase véritablement dans tout ce qu'elle a à nous dire, on se rend compte que tous ces détails sont extrêmement présents et qu'il y a là une attention extrêmement sensible qui s'y porte.
Cela dit, il aurait peut-être considéré qu'il n'y a pas tant que ça de différence finalement entre la poésie et la prose. Il a dit à Philippe Solers et Josiane Savigno qui étaient allés le voir à Perpignan qu'il y a des phrases de Proust qui sont beaucoup plus poétiques que bien des poèmes. Et c'est en cela peut-être que les deux genres se rejoignent.
C'était le sens de ma réserve de tout à l'heure. Il ne cherche pas à faire des poèmes, ça c'est évident. Mais effectivement, il y a une attention poétique au monde. Et poétique, je voudrais le faire entendre aussi dans le sens étymologique du terme, de la poésis, de la fabrique. Claude Simon est un écrivain de la fabrication des textes, quelqu'un qui est très attentif à leur structure, qui combine des structures, qui fait des compositions véritablement à la fois, on peut penser à la peinture effectivement, mais aussi à la composition que la poésie pourrait supposer.
On pourrait dire à ce titre-là qu'il est un artisan.
Le travail est artisanal, le travail est très humble, si vous voulez, très assidu, très tâtonnant. J'ai employé le terme qui avait déjà été employé, je crois, par Lévi-Strauss ou par, et par le Cercle de Prague de bricolage. Mais la différence avec l'artisan, c'est qu'on ne sait pas ce qui va sortir à la fin. Et j'essaie de faire quelque chose qui se tienne par lui-même, comme une peinture se tient par elle-même, et que des images répondent à certaines images. Et il y a le sonnet de Baudelaire que vous connaissez, Correspondance, qu'il y ait des jeux de miroirs, que quelque chose qui apparaît au début du livre soit reflété à la fin. Par exemple, La Route des Flandres commence par la Réchac cheminant à cheval à la rencontre de sa mort, et ça se termine par Réchac toujours à cheval à la rencontre de sa mort. Et donc, créer quelque chose, pas créer, produire, parce que créer suppose, on dit toujours créateur. Créateur suppose quelque chose ex nihilo. Un écrivain ne fait rien ex nihilo. D'abord, il écrit après tous ceux qui l'ont précédé, ce qui ne ferait pas autrement. Encore une fois, s'il n'y avait pas eu Flaubert, Joyce, Proust, etc., je n'écrirais pas comme ça. Ensuite, il écrit à partir dans et par la langue qui l'a précédé. Donc, produire, je crois qu'on produit, on produit des formes. Et moi, j'essaie de produire des formes qui s'équilibre, qui soit harmonieux. C'est un mot qui peut faire sourire certains, mais enfin, je le maintiens.
Des auteurs sur France Culture. C'est assez beau ce que dit ici Claude Simon dans sa modestie, produire plutôt que créer. Rares sont les écrivains qui pourraient dire une chose pareille.
Il n'y a aucune attention démiurgique chez Claude Simon, c'est évident. Il ne veut pas susciter un monde, inventer un monde. Il veut simplement essayer de rendre compte du monde qui est là, tel qu'il l'a connu, tel qu'il l'a traversé, et tel qu'il l'éprouve comme infiniment difficile à saisir. Dans cette question du bricolage, ce qui me semble tout à fait important, c'est le fait qu'il n'y a pas une finalité préconçue. Il le souligne dans la citation que vous venez de donner. Il dit d'ailleurs quelque part, je fais le roman se fait et il me fait. C'est-à-dire qu'il ne sait pas où il va. Et j'avais relevé dans un entretien qu'il a donné à une revue américaine, ce que l'on constitue, c'est un texte, et ce texte ne correspond qu'à une seule chose, à ce qui se passe dans l'écrivain au moment où il écrit. On ne décrit pas des choses qui préexistent à l'écriture, mais ce qui se passe aux prises avec l'écriture. Et voilà, je crois que c'est ça la différence avec le bricolage de l'artisan. L'artisan sait à quoi il veut aboutir. Claude Simon ne sait pas à quoi il veut aboutir. L'écriture, pour lui, c'est une sorte de maïeutique. Il va accoucher de lui-même. En revanche, ce qui est parallèle avec l'artisan, c'est qu'il se sert de matériaux qui sont déjà préconçus, qui sont déjà là, et qui sont de toute nature. Qui peuvent être des archives, qui peuvent être des souvenirs, qui peuvent être des lectures, qui peuvent être des tableaux, qui peuvent être des images qu'il a vues, dans une sorte de mélange très très disparate. Dans l'exposition que nous lui avions consacrée avec Alain Fleischer à Beaubourg en 2013, nous avions fait une première salle qui était justement une salle qui rassemblait ces matériaux très divers à partir desquels Claude Simon ensuite, peu à peu, élabore son œuvre pour montrer justement la grande diversité de ces matériaux, de toute nature, de toute origine, ce qui dit aussi beaucoup de choses de la curiosité de l'auteur. Enfin,
Des manuscrits,
il y avait les registres de la Combe Saint-Michel qui lui servent pour les Géorgiques, il y avait les carnets de la Tante Mie qu'il utilise dans l'herbe, il y avait des cartes postales qu'on voit apparaître dans Histoire, il y avait des journaux pique aussi qu'il a utilisé pour La Route des Flandres. Enfin, voilà, un ensemble de briques et de brocs qui montre que c'est un écrivain qui est ouvert à tout ce que le monde peut lui proposer.
Mais alors, quel est le rôle de l'inspiration puisque le livre se fait au moment de l'écriture, puisqu'on ne fait jamais qu'écrire ce qui se passe en nous au moment où on est à sa table de travail, puisqu'on est aussi un artisan. Quel est le rôle de l'inspiration?
Il n'y a pas d'inspiration, en fait, chez Claude Simon. Il le dit lui-même. Il dit « je n'ai pas d'imagination ». Et lorsqu'on essaye de le titiller un peu plus pour savoir avec quoi elle écrit. Il dit, j'ai retenu assez d'histoires de famille pour nourrir tous mes livres. Mais simplement, il ne veut pas transcrire ces histoires de famille comme le ferait un biographe ou un autobiographe. C'est lorsqu'il entreprend de dire quelque chose des images qui le harcèlent au moment où il écrit, que peu à peu, le travail de l'écriture en suscite d'autres. Avec ce jeu qu'il évoque en le reprenant à Lacan, qui lui faisait remarquer que les mots étaient des carrefours de sens. Chaque mot qui vient dans sa phrase, d'un seul coup, lui propose des directions différentes. Il en suit une, il l'éprouve, parfois il revient en arrière. Et du coup, quelque chose se fait, quelque chose émerge sur la page à partir de ce qui se joue dans sa tête au moment où il écrit.
Quelque chose donc du travail de l'inconscient ?
Il y a une partie de travail de l'inconscient, très certainement. C'est pas un hasard si il fait référence lui-même à Lacan. Je crois que Claude Simon est très méfiant de l'inconscient. Quand on l'interroge dessus, il ricane un peu parce qu'évidemment, personne ne peut répondre de son inconscient. Mais il m'est arrivé de repérer des phénomènes chez lui, plusieurs que je peux donner comme ça rapidement.
Oui, par exemple.
Dans La Route des Flandres, le personnage qui finalement représente l'expérience de Claude Simon lui-même s'appelle Georges. Je m'étais beaucoup interrogé sur ce Georges que l'on pouvait rattacher au Géorgique, le livre qu'il écrira plus tard, le goût pour la terre et à son activité d'ailleurs qui a été une activité agricole pendant un certain moment. Mais il me semble qu'il y a deux autres explications possibles qui relèvent toutes les deux de l'inconscient. L'une, c'est la décomposition que l'on peut faire de ce mot en je, or, je, un je H-O-R-S en dehors de lui-même, et qui montre cet état d'absence au monde dans lequel se trouve le brigadier au moment de cette drôle de guerre que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis en lisant l'Acacia, aux premières pages de l'Acacia, il évoque cette quête qui est tout à fait sidérante, avec accompagnée par sa mère et ses deux tantes sur les champs de bataille pour trouver le lieu où est inhumé son père, qui est mort en 14. Et puis, il évoque une auberge où vous étiez accueillis, il n'y avait plus de place, il dort sur la table de billard avec sa mère, et il évoque à ce moment-là l'odeur du crêpe Georgette, qui voilait le visage de sa mère en permanence, cette mère qui a été en deuil depuis sa plus tendre enfance, et dont il ne lui reste finalement que cette odeur, celle du crêpe Georgette. Du coup, ce prénom de Georges vient très vraisemblablement de cette sorte de souvenir écran qui s'est interposé entre lui.
Une sorte de Madeleine de
Proust. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a là comme une manière d'inscrire le deuil dans le filigrane de la phrase.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors venons-en, Dominique Viard, plus précisément à La Route des Flandres, roman sans doute le plus célèbre de Claude Simon. Il faut dire d'abord que c'est un livre où tous les thèmes de l'œuvre se croisent. Il y a la guerre, il y a l'histoire, il y a le récit familial, il y a la sexualité aussi. C'est une espèce de matrice de quasiment toute l'œuvre.
La véritable matrice de l'œuvre est antérieure à La Route des Flandres. C'est ce livre qui n'est pas un roman, qui s'appelle La Corde Raide, où Claude Simon reconnaît lui-même avoir mis tous les thèmes de son œuvre. Il dit que c'est un répertoire des thèmes, et d'ailleurs non pas un répertoire de thèmes. Effectivement, on trouve déjà dans ce livre l'ensemble des nœuds qui seront ensuite renoués ou dénoués au fur et à mesure des livres. Mais La Route des Flandres les cristallise véritablement autour de cette expérience majeure qui est celle de la Seconde Guerre mondiale, sans dire déjà, ça sera plutôt dans l'Acacia, combien cette expérience est doublement traumatisante pour lui, parce qu'elle l'est déjà dans l'expérience elle-même qu'elle représente, mais aussi parce qu'elle ravive en lui une autre guerre, la guerre de 14-18, dans laquelle son père a disparu, avec des proximités entre leurs deux expériences qui sont tout à fait sidérantes, et qui montrent à quel point cet homme était habité par l'absence du père.
Alors, il n'y a pas véritablement d'intrigue, même s'il y a quand même un fil narratif. On peut dire que le personnage de Georges tente de restituer la vie et les raisons de la mort de son capitaine ce jour-là sur la route des Flandres. Et la question posée un petit peu toujours tout au long du roman, c'est le capitaine a-t-il délibérément voulu mourir ? Et cette question est absolument entêtante pour le narrateur.
Nous parlions de psychanalyse tout à l'heure, et il y a effectivement là quelque chose qui est de l'ordre du transfert, très certainement. Ce capitaine, qui est un colonel en vérité, qui a véritablement vraiment existé, reçoit comme la charge de représenter aussi cette figure du père qui est mort alors que l'enfant était encore en très très bas âge et auquel d'une certaine façon l'enfant reproche d'être mort et de ne pas avoir été présent durant son enfance. Et donc l'interrogation sur la mort de ce capitaine colonel et aussi l'interrogation sur le suicide d'un autre aïeul qui vient dans le cours des échanges entre les deux hommes essaie de creuser cette absence majeure de la figure paternelle. Donc c'est, en fait, c'est un roman qui est très très compliqué parce qu'il noue des fils très divers de l'œuvre dans une seule histoire, il essaye de les rassembler et cela donne cette espèce de profusion chaotique qui saisit le lecteur lorsqu'il ouvre le livre.
Et alors le personnage de Georges va essayer de retrouver la veuve, il va même d'ailleurs y parvenir, de son capitaine mort et on peut dire que le point de mire ou l'un des points de mire de ce roman, c'est précisément cette femme, Corinne, avec qui il va y avoir une union charnelle, contrariée d'ailleurs. Il y a donc une nouvelle opposition qui apparaît ici dans l'œuvre de Claude Simon, qui est la figure féminine, la figure de la douceur et de l'amour qui vient s'opposer à l'espèce d'enfer sur terre que constitue l'expérience de la guerre sur cette route des Flandres, Dominique Viard. Quelle est la valeur de tout ça?
Alors, on peut le lire comme ça, effectivement, et du coup, on retrouve là une opposition entre Eros et Thanatos, enfin, entre la menace de mort permanente et puis le besoin de vie.
Qui existe dans l'œuvre.
Qui existe dans l'œuvre, qui est très présent et qui est aussi une expérience même biographique de Simon qui dit qu'après s'être évadé des camps où il avait été enfermé par les Allemands, il allait volontiers au bordel de Perpignan. Enfin, il ne nomme pas la ville, mais on a des passages comme ça de scènes de cette nature dans son œuvre. Mais je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Corinne, dans l'échange entre les deux hommes qui sont prisonniers, d'abord dans le wagon et puis ensuite dans le camp militaire, est un objet de fantasme. Et donc c'est un objet de production de romanesque qui leur permet de sortir de la situation dans laquelle ils sont dans le camp. Il y a aussi un autre phénomène, c'est que dans la relation avec cette Corinne, où on a l'impression que le personnage peut enfin exulter après avoir été enfermé et dans des circonstances très très pénibles et très très dangereuses, c'est l'occasion pour lui de montrer quelque chose qui me semble extrêmement important. C'est ce qu'on pourrait appeler la mémoire du corps, hein, la formule, il la reprend de Bachelard et de Merleau-Ponty. Et de quoi s'agit-il? Il y a un passage très très fort, je crois, où le narrateur est en train d'embrasser le pubis de la jeune femme, qui n'est pas forcément Corinne, ça peut d'ailleurs être une prostituée qui le fait penser à Corinne, mais ça c'est un détail, les choses restent floues dans le texte. Et dans cette relation sexuelle, ce qui lui habite l'esprit, c'est le moment où il était lui-même en train d'essayer de disparaître dans l'herbe pour échapper aux tirs de l'ennemi. Et donc, il avait le sentiment de manger de l'herbe. Et la contamination du pubis et de l'herbe dans laquelle on essaye d'échapper à la mort me paraît tout à fait symptomatique du fait que, d'une certaine façon, c'est pas seulement l'esprit qui se souvient des choses, c'est le corps qui en est lui-même complètement marqué, dans une sorte de névralgie telle que même la relation amoureuse, qui devrait être celle dans laquelle on oublie tout d'une certaine façon, est celle qui le remet au contact avec sa souffrance.
Donc le corps porte une mémoire et cette mémoire, elle est inquiète. Pour reprendre le titre de votre essai, où encore et pourquoi et comment est-elle inquiète ailleurs dans l'œuvre?
Alors, elle est inquiète à différents égards. Elle est inquiète parce que c'est une mémoire qui n'est jamais stabilisée, en fait. Il n'y a pas la mémoire qui serait là et qu'on pourrait ensuite écrire. Comme on le disait tout à l'heure, c'est dans l'écriture que les choses viennent et reviennent. C'est une mémoire qui est donc toujours à recomposer et on voit comment l'œuvre, à certains égards, revient sur les mêmes thèmes, sur les mêmes scènes.
Vous parlez de ressassement même.
Alors, oui, alors le ressassement, justement, il faut le prendre en bonne part. C'est pas une écriture qui rabâcherait toujours la même chose. L'étymologie du mot ressassement le dit bien, c'est repasser plusieurs fois par le même sas. Le sas, c'est un tamis, en fait. Donc, c'est une procédure d'affinage, en fait, comme on passe du sable sur le tamis de plus en plus petit pour le rendre de plus en plus fin. Voilà, il s'agit d'arriver à une finesse de l'écriture qui permettra d'atteindre peut-être cette mémoire éprouvée. Et puis c'est aussi une mémoire qui est inquiète parce qu'elle est l'objet de toutes sortes de parasitages. Simon insiste souvent sur un passage qu'il a lu dans Stendhal, dans Henri Brûlard en l'occurrence, où Stendhal raconte sa traversée des Alpes avec les armées napoléoniennes. Et puis d'un seul coup, Stendhal s'arrête, le narrateur de Stendhal s'arrête et dit « Mais ce que je suis en train de raconter, c'est pas les souvenirs que j'ai de cette expérience, mais c'est l'image d'une gravure qui s'est interposée entre ce que j'ai vécu et moi. » Et j'ai appelé ce phénomène le syndrome de Brûlard, sur lequel Simon revient très souvent. Il dit en fait, notre mémoire n'est pas véritablement la mémoire de ce que nous avons vécu, mais la mémoire de toutes les choses qui sont venues nourrir ce souvenir, qui se sont mêlées à lui, qui l'ont contaminé au point parfois de le déformer. Du coup, le travail de l'écriture consiste à traverser cette couche de médiation pour peut-être arriver à une pureté, si tant est que ce soit possible, de la mémoire. Mais justement, on n'y arrive pas. C'est la grande question, que savoir, comment savoir.
Les objets, chez lui, comme chez moi, sont des objets qui ont une histoire, qui sont des nœuds à l'intérieur d'une société. Et ces nœuds pouvant être des problèmes à l'intérieur de cette société. Oui, les objets, chez lui, sont des objets qui ont été fabriqués et qui ont eu des déplacements, qui sont par exemple des meubles qui sont dans une famille, eh bien c'est l'arrière-grand-mère qui... et puis à partir de ce moment-là, on peut raconter toutes sortes de choses sur l'arrière-grand-mère et tout ça, ça sort de cet objet qui est là. Vous voyez, alors ce sont des accumulateurs de mémoire que l'on peut ouvrir. Hein. Ce sont autour de ces objets se développe un discours, hein, c'est un espèce de nœud de discours, et ces discours s'enfoncent, on oublie ça, mais dans certaines circonstances, eh bien, ces discours, avec toutes les images qui peuvent en surgir, donc ces discours vont s'ouvrir, vont germer, vont se développer. C'est un peu comme chez Proust, c'est l'histoire de la Madeleine. Hein. Bon, on trempe une Madeleine dans une infusion ou du thé, et puis, hop, Combray revient. Eh bien, évidemment, c'est la même chose qui se passe avec les objets chez Claude Simon.
La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Claude Simon. Avec vous Dominique Viard, les objets sont des accumulateurs de mémoire, vient de dire Michel Butor. Cette relation aux objets signifie-t-elle que Claude Simon est un écrivain du concret, j'ai envie de dire un écrivain matérialiste?
De même que nous parlions à l'instant d'une mémoire physique, chez Simon, il y a une mémoire matérielle qui est effectivement très très insistante. On la voit à plusieurs égards, on la voit dans des éléments qui peuvent faire archives, comme ces carnets ou ces registres que nous évoquions tout à l'heure. On la voit aussi dès le tout premier texte de Claude Simon, Le Tricheur, où il est question de la montre du père, qui est un objet d'une grande pesanteur pour le personnage, parce que justement, elle est comme la présence du père incarnée dans un objet. Elle finit d'ailleurs par la casser. Et puis, il y a cette attention à la matérialité du monde qu'on trouve dans La Route des Flandres, dans l'Acacia, ou encore dans le Palace, où il y a un inventaire des objets de l'hôtel Colonne au début du livre, parce que c'est à travers ces objets que se dit l'humanité de l'homme. Dans l'Acacia, dans La Route des Flandres, Claude Simon décrit ces réfugiés qui essayent d'échapper à l'avancée de l'armée allemande et qui entassent de briques et de brocs sur des charrettes qu'ils peuvent emporter de chez eux. Et ce sont des objets anodins, peut-être utiles comme des matelas, mais aussi une cage avec un oiseau dedans, ou même sans oiseau, et des choses tout à fait banales finalement. Cette attention aux objets, cette attention aussi aux vêtements, on la retrouve d'ailleurs dans le goût que Claude Simon pouvait avoir pour les tableaux de Tapiès, avec parfois ses t-shirts maculés ou ses sacs de jute qui sont collés sur la toile. C'est quelque chose qui dit que l'humanité n'est pas simplement un concept, que c'est pas simplement une idée, mais que c'est aussi une réalité matérielle, tangible, concrète, et c'est ce à quoi il est attaché.
Du coup, ça pose la question de la religion chez Claude Simon et du rapport à la transcendance. On sait que lui était laïque et que pour lui, les choses se passaient sur Terre, dans la matérialité, justement, dans le concret de la vie. Mais il y avait quand même une forme de sacré qui était peut-être justement dans la nature, dans les objets, ou simplement dans le fait de regarder autour de soi?
Alors, le sacré est une culture pour Simon, et c'est une culture qui lui permet de dire les choses, de les imaginer, souvent avec ironie ou un peu de cynisme. Dans La Route des Flandres, il y a cette page où il parle de la passion en jouant sur les deux sens du terme, par exemple. Donc, il y a, voilà, cette manière un peu ironique, parfois cynique, de moquer la religion et de lui emprunter ses motifs pour dire le monde qui l'entoure et les rapports qui peuvent exister entre les gens. Le sacré véritable, pour lui, c'est le monde immanent, de toute évidence. Il y a cette très belle page dans le Jardin des Plantes où le journaliste qui est venu interroger l'écrivain célèbre le harcèle de questions sur son expérience de la guerre, sur ce qu'il a éprouvé à ce moment-là, est-ce qu'il a eu peur, etc. Et finalement, le narrateur qui représente Simon finit par sortir un seul mot, c'est le mot « mélancolie ». Mais c'est pas la mélancolie au sens commun du terme, c'est-à-dire c'est pas cette espèce de tristesse qui nous accable parfois. C'est la mélancolie, dit-il, de Dostoïevski, lorsque chez Dostoïevski le personnage avance vers son exécution, puisqu'il est condamné à mort, et qu'il se dit d'un seul coup que cette merveille du monde qui l'entoure va disparaître à ses yeux. Donc c'est plutôt le vertige, la peur de la perte. Qui l'assaille.
Et Michael Gruber nous a dit lundi qu'il avait parfois ressenti la tentation du suicide, Claude Simon lui-même. Il est donc proche de cette mélancolie aussi.
Alors, de fait,
de cette peur de la perte, parce que parfois il en ressent la tentation.
Oui, en même temps, je crois que c'est un petit peu dommage de tout expliquer par des considérations de type strictement biographique. Il me semble qu'il y a beaucoup plus de richesse dans l'écriture que dans
c'est un élément parmi
ce genre
d'autres,
de disons. Voilà, ce genre de d'anecdote en fait. On comprend qu'il ait eu des moments difficiles. Il a perdu son père, il a perdu sa mère, sa première épouse s'est suicidée. Enfin voilà, ça fait un ensemble de circonstances concrètes qui sont certainement très difficile à traverser. Mais tout cela se réagence dans l'écriture avec une puissance telle qu'on a un peu du mal à concevoir que cet écrivain ait voulu en finir, véritablement.
Dominique Viard, on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à parler de l'œuvre de Claude Simon. Ce sera juste après la chronique de Mayalen Berasategui.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mayalen Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui d'un roman de W.G. Sebald qui s'appelle Austerlitz. Et c'est un livre qui vous a fait penser par certains aspects à La Route des Flandres de Claude Simon.
Absolument. Je voulais en parler aujourd'hui, bon déjà parce que c'est un chef-d'œuvre, hein, il faut le dire. Et aussi parce que le travail sur le texte, le fait que ce soit un récit complètement anachronique et le fait que ce soit un récit porté par un narrateur à la fois assez effacé et obsédé par un personnage qui est le véritable objet du roman, m'a fait penser à La Route des Flandres. Donc ce personnage autour duquel tout se déroule s'appelle Jacques Austerlitz. C'est un historien de l'architecture que le narrateur rencontre à la gare d'Anvers. Et au fur et à mesure des années qui passent, il se voit dans plusieurs autres villes d'Europe. Donc c'est un roman très cosmopolite comme ça. Et donc progressivement, Jacques Austerlitz commence à raconter sa vie, comment est-ce qu'il a grandi au Pays de Galles, et jusqu'à l'adolescence, il croyait être un Gallois comme les autres, et un jour il a compris, parce qu'il a eu un flash, que donc d'abord on lui révèle son nom, on lui dit « ton nom c'est Jacques Austerlitz en fait, et c'est quoi Austerlitz ?» Ben, c'est une bataille napoléonienne, ça lui a fait une belle jambe. Et quand il a eu un flash, il a réalisé qu'en fait il était arrivé en Angleterre quand il était tout petit, dans un Kindertransport, c'est-à-dire un transport d'enfants juifs d'Allemagne et d'Europe centrale qui sont arrivés en Angleterre juste avant qu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Et un autre thème, à mon sens, commun avec La Route des Flandres, c'est la question du suicide, parce que comme c'est un texte qui est écrit D'une traite sans paragraphe, c'est un vrai bloc, on a une impression d'urgence qui se dégage. Et comme ce livre est rempli de photographies qui sont toutes censées avoir appartenu à Jacques Austerlitz, en fait, on se demande tout au long de la lecture ce qui lui est arrivé et pourquoi est-ce que le narrateur est en possession de ces photos.
Alors, qu'est-ce qu'il y a justement sur ces photos ?
Alors, beaucoup de photos sont des photos d'architecture et ça montre l'obsession d'Austerlitz pour les verrières monumentales, les verrières des grands établissements publics, des gares, des casernes, des asiles. En fait, tout un tas de lieux qui sont cruciaux dans l'histoire de l'internement et de l'extermination des Juifs. Ces photos-là sont récentes, elles ont vraisemblablement été pensées pour la fiction. Et puis, à mesure que Jacques Austerlitz redécouvre ses origines, surgissent d'autres photographies qui sont plus vieilles, plus intimes, des photographies de personnes. La photographie de la couverture montre par exemple un petit garçon des années 30 qui est habillé en page Louis XV. Et en soi, c'est tout un programme, ça montre un univers complètement disparu et très différent finalement du monde anglais dans lequel Austerlitz va grandir. Et ces photos-là, elles précèdent la fiction, elles ont eu une vie avant la fiction, elles ont décrit le réel avant la fiction. Et Sebel trouve un équilibre tout à fait singulier, me semble-t-il, à la fois entre les photos et le texte, et entre différentes formes de réel et la fiction qu'il a réussi à construire.
Alors vous dites que réel et fiction sont mêlés, est-ce qu'il y a une dimension autobiographique dans Austerlitz, Maïalène ?
Alors autant le narrateur peut tout à fait être un ersatz de Sebald, autant l'histoire est fictive. L'auteur a expliqué qu'en fait il avait eu l'idée du bouquin en voyant un documentaire sur les Kindertransport. Mais le sujet ne lui est pas étranger, Sebald n'étant pas juif mais bavarois, né en 44 et fils d'un soldat de la Wehrmacht. Donc en fait c'est quelqu'un qui fait partie de cette génération d'Allemands absolument traumatisé par le silence sur la guerre et sur la Shoah. Et toute une partie de son œuvre tourne autour de la question des migrations, de l'exil et des identités perdues. Donc Sebald, après ce chef-d'œuvre-là, malheureusement, est décédé dans un accident de voiture, ce qui fait que c'est quelqu'un qui était pressenti pour le Nobel. Et je trouve qu'au niveau du grand public, il n'est pas assez connu en France. Il est très connu des spécialistes, mais pas assez du grand public. Mais comme tous les amateurs de très très bonne littérature le savent, Sebald, c'est aussi le nom d'un des principaux codes donnés dans Les Aventures des Orphelins Baudelaire, que je vous recommande de regarder sur Netflix.
Ça, c'est votre
si vous ne l'avez
préférée,
pas lu,
hein,
c'est
Hélène,
ma série préférée. Et à mon avis, ça fera énormément pour sa reconnaissance par le grand public pour les générations à venir.
Dominique Viard, Sebald, Claude Simon, c'est un parallèle que vous pourriez faire.
Oui, je crois que effectivement il y a beaucoup de proximité entre les deux et d'ailleurs tous deux influencent aussi un peu les mêmes écrivains que nous nommions tout à l'heure. Le rapport à l'histoire et à cette histoire qui continue de travailler souterrainement les individus me paraît très présent chez les deux écrivains.
Merci beaucoup Maïalène Berasategui. On retrouve votre signature dans les pages du nouveau magazine littéraire. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Vous êtes bien sur France Culture. Nous évoquons cette semaine l'écrivain Claude Simon, prix Nobel 1985 de littérature et auteur d'une œuvre dans laquelle la description et la description d'images comme des tableaux, on a déjà commencé à en parler, tient une place très importante.
Entre les deux images, le centre de la vitrine est occupé par divers objets. Poterie au décor géométrique, statuette en terre cuite, rougeâtre ou ocre, représentant des personnages à la peau lisse et tendue par la graisse, accroupis, la tête légèrement renversée en arrière. Ils ont des yeux en grains de café qui ne laissent entre les paupières qu'une fente pour le regard, des visages plats, des lèvres d'une somnolente cruauté. Des ornements de plumes multicolores ainsi que quelques morceaux d'étoffe tissés à la main complètent la décoration de la vitrine où, sur la gauche, une jeune femme en contreplaqué découpé, grandeur nature, revêtue d'un uniforme bleu marine et d'un poncho rouge, présente dans l'une de ses mains la maquette d'un avion en métal chromé. Un peu en arrière, des poteries indigènes est installée et reposant sur deux chevalets de bois une grande maquette du même avion dont une partie du fuselage a été découpée, de sorte qu'à l'intérieur on peut voir de petites figurines d'hommes et de femmes assises sur les sièges tendus de drap bleu. Au-dessus de l'avion et occupant le milieu de la vitrine, se trouve un panneau vertical, un peu plus haut que l'hôtesse de contreplaqué, sur lequel se trouve la reproduction d'un portulan où est représenté le continent américain.
Un extrait des Corps conducteurs lu par Michel Bouquet. Qu'en retenez-vous, Dominique Viard ?
Je crois que c'est cette attention minutieuse de Claude Simon. Alors, les Corps conducteurs, c'est quand même la partie la plus formaliste peut-être de l'œuvre, celle où Claude Simon était encore un peu marqué par les recherches développées par des théoriciens du nouveau roman comme Jean Ricardou. Et donc, cette enlisement dans une description de tellement minutieuse qu'on
finit par
ne plus voir véritablement ce dont il est question. C'est peut-être pas là la manière la plus caractéristique de Claude Simon. C'est plus une partie expérimentale de son œuvre, je crois.
Alors, dans La Route des Flandres, qui est quand même notre fil rouge de l'émission d'aujourd'hui, il y a des gravures du XVIIIe siècle qui sont souvent décrites, et en particulier au moment où les personnages de Georges et Blum tentent de reconstituer la mort du capitaine. Pourquoi ce parallélisme, selon vous, Dominique Viard ?
Je crois qu'il s'agit là de montrer comment l'imaginaire, lorsqu'il tente de développer les histoires qu'il raconte, va toujours puiser ses ingrédients dans un ensemble d'éléments culturels qui sont à disposition. Ces gravures, comme aussi le tableau Le Verrou de Fragonard, par exemple, sont sollicitées pour essayer d'imaginer quelle fut la relation de l'ancêtre familial avec la jeune femme qui peut-être l'a trompé et qui a causé son suicide, de même que le tableau qui représente cet ancêtre et qui est lui-même abîmé par le temps, une craquelure est apparue qui laisse apparaître un fond un peu rouge sombre, fait rêver l'enfant qui le regarde à l'idée que le tableau pourrait avoir enregistré lui-même la trace sanguinolente de la balle par laquelle cet ancêtre s'est donné la mort et qui, comme chez Dorian Gray finalement, le tableau reprendrait la réalité. Enfin, il y a tout un système d'imagination qui se met en place. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire n'est pas l'histoire que raconte Claude Simon, c'est l'histoire que se racontent les personnages de Claude Simon pour échapper à l'enfer dans lequel ils se trouvent à ce moment-là. Donc l'imaginaire paraît une sorte d'ouverture vers une liberté onirique, et non pas l'objet même de l'œuvre.
Donc on est toujours en train de fuir l'enfer, on est toujours en train de fuir la guerre. Très précisément, Claude Simon veut écrire la guerre, beaucoup de types de guerres d'ailleurs, la guerre révolutionnaire, la Seconde Guerre mondiale, évidemment. Il l'écrit en romancier. Est-ce qu'il l'écrit aussi en témoin ? Et là, on rejoint un tout petit peu le thème de l'autobiographie. Diriez-vous qu'il est aussi quelqu'un qui apporte un témoignage ?
Il apporte un témoignage, mais ce témoignage n'est pas celui de quelqu'un qui a compris ce qui s'est passé, qui peut en témoigner. Il apporte le témoignage d'une immersion, d'une incompréhension. Cette formule récurrente, comment savoir, le dit bien. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que lorsqu'il essaye de comprendre beaucoup plus tard ce qui lui est arrivé, et il le raconte notamment dans Le Jardin des Plantes, il va lui-même à Vincennes consulter les archives de l'armée, et il lit le journal de Rommel pour savoir quel était le point de vue de l'adversaire, si l'on veut, pour essayer de comprendre dans quel nœud lui-même s'est trouvé, et ces agencements de documents de nature diverse ne produisent jamais un discours cohérent et surplombant qui serait celui d'un historien de la guerre. On est toujours au milieu du disparate et du chaos.
Et c'est là où c'est très intéressant, parce que Claude Simon disait lui-même que le roman du XXe siècle, c'était le roman du non-savoir, alors que le roman du XIXe, c'est le roman du savoir. Il y a donc une invention, alors avec Claude Simon, évidemment, pas tout seul, d'un nouveau type de roman où on ne saurait rien, c'est ça, Dominique Viard ? C'est quoi le roman du non-savoir ?
Alors, le roman du non-savoir ou de l'insavoir, c'est le roman qui s'interroge, en fait. C'est pas celui qui a une thèse qu'il va développer et illustrer dans le livre, comme l'aurait fait un Zola ou encore un Sartre, contre qui Claude Simon s'est souvent élevé.
Même s'il part quand même aussi de cette tradition-là dans ses premiers romans qu'il reniera
pas exactement,
par la suite. Enfin, le roman existentialiste,
si,
quand même,
si
des premiers
lisez,
livres.
Si vous lisez Le Tricheur, on est beaucoup plus proche, peut-être, peut-être d'une certaine manière de L'étranger de Camus, et encore, c'est un roman complètement égaré, avec un personnage qui se cherche, une histoire qui n'arrive pas à se construire, et puis ce roman n'ayant pas eu véritablement d'audience, Claude Simon s'est essayé ensuite, dans Gulliver, à écrire un roman selon les codes de l'époque, qui sont les codes effectivement de l'existentialisme sartrien. On peut tout à fait lire Gulliver en même temps que Les Chemins de la Liberté, par exemple. Et Claude Simon, une fois qu'il a eu publié ce roman, dit « Voilà, je me suis essayé à cette manière et je vois bien que c'est un échec. Je ne peux pas persévérer dans cette voie qui n'apporte rien. » Et c'est en allant plutôt du côté de l'immersion, du côté de ce magma de sensations dont il dit que c'est justement ce à quoi il a affaire quand il écrit, que peut-être il va pouvoir ressaisir quelque chose de l'expérience effective telle qu'elle se dépose en lui et que l'écriture lui permette de la faire revenir.
Alors ça pose une question, ce rapport à l'existentialisme, ou plutôt cette manière d'être contre le courant littéraire que représenterait Sartre avec Les Chemins de la Liberté, c'est la question de l'engagement. Est-ce qu'on peut dire tout de même qu'il n'y a pas d'engagement chez Claude Simon? Est-ce que c'est aussi simple que ça pour vous, Dominique Viard?
Alors, c'est pas du tout simple. En fait, il y a quatre raisons qui font que Claude Simon est très critique vis-à-vis de ce qu'on appelle la littérature engagée ou la littérature en situation après Sartre. La première raison, c'est qu'il considère que finalement, avoir la compétence d'écrire et d'agencer les mots de façon plus ou moins harmonieuse ou parlante ne qualifie pas quelqu'un pour être gourou, tranché de tout et de rien. C'est une formule qu'il donne à Bernard-Henri Lévy, qui essaie de lui faire dire qu'il est un écrivain engagé. Ensuite, il proteste contre la littérature engagée ou la science engagée parce que cela conduit, dit-il, à l'effondrement total, spirituel et économique de tout un pays. Et il pense ici au réalisme socialiste, à Lysenko, et effectivement à ce qu'a pu être la littérature engagée dans cette période-là.
La chute d'un pays et puis d'un art aussi, parce qu'on sait
bien
que c'est
sûr,
en général
si
de la mauvaise littérature.
La littérature à une pensée, elle devient une pure illustration de cette pensée. Le troisième argument, c'est que, et sa formule exacte, c'est ça, c'est le trou noir d'Auschwitz, sans parler du goulag, a rendu tout discours humaniste simplement indécent, dit-il. Donc on est proche des pensées d'Adorno, de Blanchot, avec l'idée qu'il y a une difficulté à soutenir un discours idéologique marqué, fort, une thèse, après un tel événement qui a montré finalement la faillite de ce type de discours. Et puis, il dit finalement, écrire est déjà en soi un engagement. Et effectivement, la forme particulière qu'il donne à son écriture déplace tellement un certain nombre de convictions déjà là, notamment le savoir surplombant, théorique qu'on peut avoir des choses pour montrer à quel point on ne sait jamais vraiment, qu'il met en question toutes les représentations discursives de l'histoire et de la pensée. Ça, c'est la position générale de Claude Simon. Néanmoins, comme individu civil, c'est quelqu'un qui s'est engagé. Il a signé le manifeste des 121 contre la conscription en Algérie, par exemple. Et puis, il y a eu ce débat tout à fait intéressant qu'il a eu avec l'écrivain japonais Kensaburo Oe, au moment où Jacques Chirac avait décidé de reprendre les essais nucléaires. Oe avait fait un papier qui était paru dans Le Monde pour s'insurger contre cette décision. Et Claude Simon a répondu en disant que, en fait, il y avait dans ces essais nucléaires quelque chose qui garantissait la paix dans le monde. Alors, ce qui est tout à fait frappant dans ce passage, dans cet article du Monde, c'est que Simon reprend quasiment mot pour mot à la lettre un propos qu'il a tenu lorsqu'il a reçu le prix Nobel de littérature. Or, il le reprend pour lui faire dire le contraire. C'est-à-dire que dans le discours du prix Nobel à Stockholm, il dit « Je suis un vieil homme, j'ai connu des révolutions,
toutes
des guerres, etc.
Mmh.
Et donc, si je sais quelque chose, c'est que je ne sais rien et que le monde ne signifie rien. » Et dans le texte publié dans Le Monde, il redit la même chose. « Je suis un vieil homme, j'ai connu des révolutions, des guerres. Et si je sais quelque chose, c'est qu'il faut s'en préserver. » Voilà. Et on voit bien là toute la scission qu'il y a chez lui entre l'écrivain social, comme dirait Proust, et puis, enfin l'homme social plutôt, et puis l'écrivain qui fait avec les mêmes matériaux expérimentaux, tout à fait autre chose.
Mais alors, c'est un écrivain dont l'esthétisme de la prose, c'est un mot qu'on n'a pas encore employé, le mot esthétisme, saute aux yeux. Est-ce que on peut dire que c'est un esthète ? En même temps, c'est un mot qui ne lui va pas tout à fait, à cause sans doute du fond très tragique de sa littérature. Et néanmoins, le rapport à la peinture aussi nous y fait penser.
Alors, ce n'est pas un esthète au sens où ce n'est pas quelqu'un qui chercherait de l'ornement, qui chercherait de la rhétorique, du bien écrire, de l'académisme, on en est bien d'accord. C'est quand même quelqu'un qui a le goût de l'esthétique, effectivement, dans la composition de ses œuvres, qu'il compose en ayant un sens des équilibres, des harmoniques picturaux.
De la composition.
De la composition, et il va parfois jusqu'à inventer des passages. Il explique, par exemple, que quand il a écrit La route des Flandres, il avait procédé d'abord par fragments, il écrivait des fragments qui lui venaient et que tout cela ne faisait pas un ensemble. C'est là qu'il a inventé ce système de couleurs dont vous avez parlé, je crois, avec Alastair Duncan hier. Et en ayant composé ce système de couleurs, il se rend compte qu'il manquait un peu de bleu ici, un peu de marron là, etc. Et il a écrit des passages qui ont été comme réclamé par le besoin d'équilibre que l'œuvre pouvait avoir, par les effets d'accord et de résonance. Et il dit d'ailleurs, avec beaucoup d'humour, que certains de ses passages étaient parfois bien meilleurs que ceux qu'il avait écrits spontanément. Donc il y a un souci des équilibres, un souci des harmoniques presque au sens musical du terme. Il faut que quelque chose revienne, comme un refrain ou une insistance à un moment.
Fugue, le mot de fugue revient aussi souvent dans
son
travail.
Tout à fait, oui. Le rapport à la musique est au moins aussi important chez lui que le rapport à la peinture. Et donc, voilà, ce sens-là fait de lui effectivement quelqu'un qui est préoccupé par l'esthétique de son œuvre.
Alors, on a dit, vous avez dit, que c'était un écrivain d'après les idéologies, c'est un écrivain de la deuxième moitié du XXe siècle. Son œuvre aussi est une œuvre de la modernité. Est-ce qu'on peut même aller plus loin et parler d'un écrivain et d'une œuvre de la post-modernité, selon vous, Dominique Viard ?
Je suis toujours très réticent à cette notion de postmodernité. Je trouve qu'elle ne convient guère à décrire la littérature française, à part quelques rares écrivains qu'on pourrait ranger sous cette étiquette.
Et qui serait, par exemple,
qui serait le premier Jean-Philippe Toussaint, par exemple. Voilà. Dans l'idée de la postmodernité, il y a une sorte de déhiérarchisation des choses. Anything goes, hein, c'est le slogan des postmodernes. Et puis il y a l'idée de prendre tout avec ironie, avec distance, dans une sorte de second degré permanent. Chez Simon, c'est pas ça. Il y a parfois même un premier
degré.
Donc c'est
un vrai moderne,
insistant.
Alors.
C'est un moderne, oui, bien sûr. Mais c'est un moderne qui, effectivement, est capable de s'appuyer sur tout. Mais les modernes le faisaient. Enfin, Rimbaud, déjà, s'intéressait aussi à des choses apparemment anodines. Donc c'est un moderne avec toute l'exigence que la modernité peut porter. Il n'y a pas cette désinvolture qu'on trouve dans la postmodernité, plutôt d'ailleurs dans la postmodernité plastique parfois que dans la postmodernité littéraire.
Alors on sait, Dominique Viard, que vous considérez que contrairement à ce qu'on entend ici et là, la littérature actuelle est de grande qualité. On est dans l'âge d'or du roman, Guy Scarpetta nous le dira encore demain.
Il le dit pour des romans précédents, hein, pas tellement pour les romans d'aujourd'hui.
Oh, il continue en tout cas à le considérer. Est-ce qu'on le doit en partie cette qualité-là à l'héritage de Claude Simon?
Je crois qu'on peut le dire. Alors c'est un héritage en plus qui est aussi un passage. C'est-à-dire que Claude Simon est aussi un grand passeur de Faulkner, par exemple, de Dostoïevski et d'autres auteurs avant lui. Mais il y a un héritage de Claude Simon. Alors non pas que les écrivains écrivent comme Claude Simon ou à la manière d'eux, on n'est pas dans le pastiche, mais il y a une forme d'exigence, une forme d'inventivité, une forme de liberté qui ont été gagnées par l'œuvre de Claude Simon, par la phrase de Claude Simon, et qui autorise des formes littéraire aujourd'hui tout à fait étonnante.
Oui. Mais en même temps, on verra demain que Claude Simon revient à l'histoire, à la narration, au personnage avec ses romans à partir des années 80. Mais la littérature actuelle, c'est vraiment, pour le coup, une espèce de refus très franc du formalisme trop poussé. Bon, j'emploie des mots qu'on pourrait à chaque fois discuter, mais en tous les cas, l'histoire est vraiment de retour, à tel point qu'on a l'impression aujourd'hui que le nouveau roman n'est presque pas venu infuser dans la littérature française.
Votre question mériterait quantité de réponses. En fait, d'abord, je ne suis pas du tout convaincu, je ne sais pas ce que Scarpetta en dira demain, mais je ne suis pas du tout convaincu que le personnage revienne chez Claude Simon. Je dirais même qu'il s'en va dans les dernières œuvres. Si par personnage, on entend un être de fiction inventé pour être le support d'une histoire avec des péripéties, etc. Donc, il n'y a absolument rien de cela dans l'œuvre de Claude Simon, qui au contraire va de plus en plus vers un matériau de nature biographique à base de vécu, comme il le répète très souvent. Ensuite, il y a cette disparition de la fiction, si vous voulez. La question du rapport à l'histoire est aussi importante, mais encore faut-il s'entendre. Est-ce qu'on parle d'histoire avec un H majuscule à l'histoire du XXe siècle?
Non, plutôt à l'histoire avec un H minuscule.
Auquel cas, Claude Simon est vraiment dans l'histoire du XXe siècle. Son œuvre est une sorte de leçon de ténèbres, cette histoire du XXe siècle. En revanche, si on parle de l'histoire avec un petit H, c'est autre chose. Les histoires avec un petit H sont des ingrédients à l'intérieur de ces livres, mais ne sont pas l'objet même du livre. Il y a très très loin de Claude Simon avec, je ne sais pas, des auteurs comme ceux de la nouvelle fiction, par exemple. Quant au nouveau roman, enfin, ce n'est pas véritablement un groupe constitué, c'est une constellation d'écrivains qui ont des œuvres éminemment différentes les uns des autres.
On continuera à converser de tout cela, pas avec vous du coup, Dominique Viard, mais demain avec Guy Scarpetta. Merci beaucoup. Je rappelle que votre essai consacré à l'auteur qui nous intéresse cette semaine, Claude Simon, s'appelle « Une mémoire inquiète, la route des Flandres » de Claude Simon et qu'il a paru aux presses universitaires du Septentrion, réédité en 2010. C'était la Compagnie des auteurs, une émission que nous devons à Garance Mazelier, Laurent Travaglishana, Laurence Malondane, Vanessa Prévost, Didier Pinot et Alexandre Dang. Demain, nous retrouvons pour une dernière fois la thématique Claude Simon. Ce sera avec Guy Scarpetta. Nous parlerons en particulier des deux derniers romans de l'écrivain, L'Acacia, et puis en contrepoint aussi Les Géorgiques. Mais pour l'heure sur France Culture, la poésie est de retour par la voix de Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Nous sommes toujours chez Gallimard La Blanche. Aujourd'hui, nous ouvrons Tête en bas, un livre d'Étienne Faure. Rentrée d'hémisphère sud où j'ai vécu tête en bas, en sueur, à fleur de sel, de peau, je ne peux me défaire du soleil qui surexpose mes nuits, sans horaire, sans arrêt, fuyant le jour. Les morts d'en haut, leur insomnie devenue diurne, sans qu'on y voie grand-chose dans ce dédale assommeillé sous terre, sol noir réchauffé au néon, cadran de lune, puis renaître à l'heure où s'éteint la ville. Je me réveille plein de l'été quitté, antipodiste en chute libre et vol, ébloui, demeure sous les senteurs plus qu'entêtante, entêté de la peau transie. Pesanteur qui me rive à nouveau au nord. Tête en bas. Voilà, si la poésie est un état, il est peut-être celui-là pour Étienne Faure. Tête en bas. Un dimanche aux eaux, on allait voir les singes en pleurs de n'avoir qu'une vie. Rire et... Non, plutôt cet autre poème, celui-ci. Ce petit bloc de prose qui se découpe et partout pratique l'enjambement qui donne circulation aux images et au fil du poème. Et puis, rompre avec cet arbre dynastique d'où nous aurons bientôt cessé de descendre, toute sève inutile vouée aux orties, dans un jardin en ruine où prolifèrent déjà la bardane et les pensées sauvages, la contre-allée où courait la menthe et qui ne mène à rien, stoppée verte, juste à la simple agonie des plantes en leur parure dominicale, que l'herbe étouffera encore, verte et haute, folie d'une presque forêt qui réitère où tout pousse et se décompose. Le monde est pourrissoir, l'amour idem. Par la racine, dans un circuit de prédation puis de reproduction à l'infini, grandeur nature, le monde est pourrissoir. La vie aux orties. Le titre arrive après. Bon, c'est donc pas le titre, c'est la conclusion. La vie aux orties, sa version du paradis perdu, Paradise Lost, le poème de Milton. Oui, peut-être, peut-être. C'était dans le passage Dimanche reproduction, et dans la suivante, au musée d'Erictus, tiens, d'un petit dépotoir de village, renaissait parfois un iris, une plante grasse, jetée en leur temps avec le pot fendu, le rhizome acharné à rejaillir parmi les ordures, déchets, rebuts, recomposant une patrie dans le terreau des morts, où l'on achevait, sédentaire, de pourrir. Non, ce n'est pas la vie aux orties, c'est celui-là, si je vais, c'est du dépotoir. Le dernier mot du poème est en italique, qui n'est pas le titre, mais pourrait bien l'être, c'est dans « Tête en bas ». Allez savoir pourquoi.
Merci Jacques Bonafé pour ce troisième épisode de votre série intitulée « Semaine blanche ». Vous nous proposiez aujourd'hui des textes d'Étienne Faure.